Bonjour à tous. Alors Léa a posé une question, puis on n'a pas répondu. Moi je vais donner... On n'entend pas bien. Ah bon, je suis la technique. Une question, et alors j'ai un petit bout de réponse que je voudrais apporter comme ça, et puis qui vaut, sans obligation d'achat, c'est ça qu'on dit. La mission, c'est la Pentecôte qui continue, en fait. La semaine dernière, c'était la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a plein de gens qui se sont rassemblés en un endroit, et là, ils ont entendu parler de Dieu dans toute leur langue, et ils sont repartis. Et la Pentecôte, c'est cette continuation, là, ce mouvement, comme si ça n'en finissait pas de continuer à se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, pour que les gens entendent parler de Dieu, chacun dans sa langue, et ça y va, et des bases s'établissent d'où on part pour aller plus loin. Et voilà, j'ai pensé à ça pendant que tu nous disais ça, peut-être parce que je vais vous parler ce matin de quelqu'un qui a été, certes pas le premier missionnaire, hein, je suis bien d'accord, Élisée, Jésus a été le premier missionnaire, mais l'apôtre Paul. Depuis quelque temps, je relis les épîtres de Paul dans le petit livre rouge, dans cette version, qui n'est pas neuve, puisqu'elle date de 40 ans, elle a été écrite par quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, Alfred Kuhn, qui a été un des fondateurs de l'église La Bonne Nouvelle à Strasbourg, etc., et qui a écrit une version, ça s'appelle « Transcription moderne des épîtres de Paul ». Et je vous encourage à le faire. Alors, je ne sais pas s'il existe. Je crois qu'il existe difficilement. Enfin, on le trouve difficilement. Peut-être que la Maison de la Bible fasse un effort. Mais c'est très rafraîchissant. On entend des textes bibliques qu'on connaît par cœur avec la versification classique ou le rythme classique de nos lectures. Et on les entend d'une toute autre manière. Je prends juste un petit exemple. Vous connaissez bien sûr ce texte. Qu'est-ce que j'avais dit, Philippe? Le fameux texte de Philippiens. Alors je vais le lire un peu solennel, comme on fait souvent avec les textes bibliques. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. C'est comme ça que vous parlez tous les jours naturellement, hein, avec cette façon d'articuler les choses. Alors je vais vous le lire maintenant dans cette version, non pas pour dire qu'elle est meilleure qu'une autre, mais parce que je trouve que c'est rafraîchissant, tout simplement. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'Esprit de Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur, quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe, entre nous, une communion spirituelle vivante, et tout ce que cela implique d'affection, de sympathie mutuelle, oui, si les mots tendresse, compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. C'est bien, je trouve ça. C'est quand même plus frais et un peu plus léger. Alors, bien sûr, les autres lectures des épîtres de Paul, hein, pour les savants, n'est-ce pas, Charles Eric, sont toutes valables. Hein, les études théologiques, doctrinales, sotériologiques, enfin, tout ce que l'on veut. C'est pas que ça n'a pas de sens. Mais en relisant tous ces épîtres, je me rends compte à nouveau. Que Paul était, en fait, c'est une vie d'un être humain dans une société à un moment donné de l'histoire, comme nous tous. La vie chrétienne, c'est pas quelqu'un qui à un moment a écrit des préceptes, un code, mais ce sont des gens qui se sont engagés dans la vraie vie, si j'ose dire. L'apôtre Paul, rappelez-vous, ça n'a pas très bien commencé quand même. Vous vous souvenez de la première apparition de Paul dans le Nouveau Testament? C'est dans les Actes, au chapitre 7. Au tout début de l'Église, lapidation d'Étienne. Les témoins déposèrent leurs vêtements pour lapider Étienne au pied d'un jeune homme appelé Saul, qui après sera transformé en Paul. Et un peu plus loin, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Voilà, c'est ça, Paul. Quelqu'un qui était tellement habité par une idéologie, par la défense de quelque chose auquel il croyait plus que tout. Et de ce côté-là, on va dire que c'est plutôt bien d'avoir des convictions. Il était prêt à tout pour empêcher que la foi chrétienne se répande. Il vient de loin, et puis quand le Seigneur vient le chercher... Vous connaissez aussi ce récit sur le chemin de Damas. il est vraiment rencontré par le Seigneur, d'une façon que la plupart d'entre nous n'ont sans doute pas connue. Notre arrivée dans la foi chrétienne s'est faite, en tout cas en ce qui me concerne. Je ne suis pas trop souvent monté à cheval non plus. Le risque de tomber de cheval était limité quand même, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai rencontré le Seigneur, et pour la plupart d'entre vous non plus. N'empêche que voilà, Dieu est venu le chercher. Et tout de suite, il y a des gens qui l'accompagnent. Tout seul, il n'aurait rien fait, Paul. Mais dès le chapitre 9, dans les Actes, il y a un certain Ananias. Le Seigneur dit, Ananias, lève-toi, va dans la rue qui s'appelle la rue droite, et cherche un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il prie, il t'a vu entrer, lui imposer les mains. Alors Ananias dit, mais Seigneur, j'ai entendu dire que c'était un terrible ce Paul. J'ai entendu dire que tout ce qu'il fait comme mal à tes saints dans Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations. Et effectivement, ô combien Paul a été l'instrument de Dieu pour porter ce nom dans les nations du monde d'alors, c'est-à-dire tout ce qui était le pourtour méditerranéen, puisqu'on partait de là. Donc Ananias a été quelqu'un qui a aussi été utile et qui a permis à Paul de retrouver la vue, à tous les sens du terme sans doute, d'une part peut-être physiquement, mais peut-être aussi de comprendre à quoi il était appelé. Et puis après on a Barnabas, un peu plus loin, parce que bon, Paul arrive, il va dans l'église, il a bien du mal à faire croire aux gens qu'il s'est vraiment converti et que c'est plus le même bonhomme que celui qui cherchait les chrétiens. On croit toujours que c'est un espion infiltré, ou je sais pas comment il faut, un truc comme ça, quoi, qui vient pour essayer d'apprendre des choses, pour pouvoir dénoncer. Donc Paul a du mal, et on le comprend. Sa vie n'a pas été facile au démarrage, mais heureusement, il croise la route d'un certain Barnabas. Hein, c'est au chapitre 9, verset 26. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres, leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, et leur dit, voilà, il s'engage lui aux côtés de Paul, et il va servir en quelque sorte de grand frère. De grand frère pour le guider au début où ce n'est pas son chancelant, et où l'environnement n'est pas forcément favorable. Heureusement que Paul a rencontré un grand frère comme ça. Est-ce que nous savons être parfois le grand frère ou la grande sœur de quelqu'un qui est dans une passe compliquée et qui a besoin juste d'un peu de béquille, on va dire, pour passer un chemin difficile? La première mention qui était faite de Barnabas, c'est un peu plus tôt dans le livre des Actes, au tout début de l'Église, la communauté des chrétiens qui se rassemble justement après la Pentecôte, hein, dont il est dit qu'ils étaient... ils étaient réguliers dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain, hein, etc. Et dans le chapitre 4, verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie, qui le sait ? Fils d'exhortation. Fils d'exhortation. Il était lévite, originaire de Chypre, et il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas, ce grand frère, non seulement il était capable d'expliquer que Paul n'était plus le bandit qu'il avait été, mais c'était quelqu'un qui était véritablement engagé. C'est pour ça qu'il pouvait être un grand frère solide, parce que c'était quelqu'un qui savait mettre les paroles en acte. Non seulement il disait, il avait cru, il était capable de répandre ou de diffuser la parole, mais lui-même, il s'était engagé. Alors, à cette époque, ils avaient besoin de moyens, donc certains vendaient leurs propriétés pour mettre l'argent en commun. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on met de l'argent dans les troncs, hein, c'est un peu la même chose. Mais semble-t-il, c'était assez rare, et donc c'est souligné comme ça. Barnabas, le fils d'exhortation. Alors après, il y a eu des histoires. Barnabas, ça a été un peu compliqué avec Paul. Hein. La relation avec Paul, c'est un peu tendu à un moment. Bon, voilà, ça reste des êtres humains, tous ces gens-là. Eh bien, oui, c'est aussi important de l'entendre. Ils se sont engueulés, franchement, voilà. Hein, après un temps de travail ensemble, y compris de voyage missionnaire, ils étaient en mission ensemble, et puis ils veulent repartir en mission, et ils ne sont pas d'accord pour la constitution de l'équipe. Et le texte dans les Actes, c'est un peu plus loin, c'est au chapitre 15, nous dit, en termes fleuris là encore, le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Vous savez, c'est comme les rencontres entre certains grands de ce monde. On dit qu'on s'est parlé franchement, ça veut dire qu'on s'est franchement affronté. Mais là, c'était pareil, une grosse bagarre. Alors, on dit tout est foutu, le fil d'exhortation, c'est fini, il n'y a plus rien, non. Parce que beaucoup plus tard, on apprend qu'il y a la réconciliation qui a eu lieu. On ne sait pas comment, on n'a pas besoin de le savoir. On n'était pas présent, on n'a pas tout suivi, il n'y avait pas du monde tout le temps qui écoutait. Mais on sait qu'ils se sont réconciliés et on sait que Paul recommande chaleureusement Marc, le cousin de Barnabas, hein, pour que les gens l'accueillent. Donc voilà, c'est une véritable histoire qui se passe avec l'apôtre Paul et des gens qui l'entourent. Et puis il y a d'autres personnes qui l'entourent, Timothée, bien sûr, que Paul prend tout jeune avec lui. Hein, et il aurait pu dire « je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées », enfin, etc. La tirade du Cid. Hein. Et là, c'est Paul qui va servir de grand frère. Il va le former, il va l'aider à progresser, comme Barnabas l'avait fait avec lui, comme quelqu'un qui reprend, qui conseille, qui montre le chemin. Et puis, il y a tant d'autres noms pour dire que, en relisant ces textes dans cette version que je trouve rafraîchissante, on se rend compte que c'est une vie d'être humain, entouré de plein de gens avec lesquels les relations ont été faciles, difficiles, continues, heurtées, avec des phases plus et des phases moins, Démas, Crescens, Tite, Luc, Tichy, Carpus, bon, c'est des noms de l'époque, hein, c'est évidemment, mais tous ces gens-là ont entouré l'apôtre Paul. Et alors, en réfléchissant à ça, ça m'a fait remonter en mémoire une prédication que j'avais donnée à l'église de Vendeuvre, qui ne s'appelait pas encore l'église de Vendeuvre, qui s'appelait à l'époque la communauté évangélique de Vendeuvre, en 1981, certains n'étaient pas nés, bon d'accord, c'est pas très grave. Et j'ai trouvé intéressant, donc j'ai retrouvé le parchemin, si je veux dire, le papyrus d'origine. Et à l'époque, alors j'avais aussi fait cette réflexion-là, je ne sais pas si c'était avec la même lecture de culte, je ne me souviens plus, quand même, voilà, ça fait quand même 40 ans, enfin, je ne sais plus, longtemps en tout cas. Et donc j'avais fait la liste de tous ces gens, voilà ça c'est la liste, j'avais listé tous les personnages qu'on rencontre dans les épîtres de Paul, quoi, tous ceux qu'on voit là, des fois une fois, des fois plusieurs, puis j'avais essayé de les trier, de voir s'il y avait des choses à apprendre pour nous. Et alors suite à ce classement, on voit parmi les gens que Paul rencontre, il y a ceux qui n'ont jamais accepté son message, sont passés à côté, si je veux dire, complètement. Il y a ceux qui, un temps, ont cheminé avec lui, puis qui sont tombés parce que, bon, voilà, ils n'avaient pas envie d'aller plus loin. Il y a ceux qui sont bien engagés, puis qui, au bout d'un moment, sont retournés dans le monde, parce que peut-être la vie aventureuse de Paul, ça n'est pas de facile de le suivre, quand même. Hein, c'est toujours sur le départ, toujours en train de prévoir le coup d'après. Ça ne devait quand même pas être quelqu'un de tout repos. Et puis, il y a ceux qui ont, avec lui, porté le message de l'Évangile, qui ont travaillé avec lui, qui sont restés fidèles et qui ont porté du fruit avec lui pour la gloire de Dieu. Et je vais vous inviter à lire un texte dans l'évangile de Matthieu pour faire un peu de, voilà, une comparaison, pour mettre un peu un parallèle entre ce que je viens de dire et un texte bien connu de vous tous, je pense. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison, c'est dans Matthieu chapitre 13, s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent qu'il monta s'asseoir sur une barque. La foule se tenait sur le rivage. Il disait « Le semeur sortit pour semer ». Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Alors quel rapport entre les deux ? Je vous ai un peu guidé quand même, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Simplement, dans tous ces gens qui sont autour de nous, dans tous ceux qui ont accompagné l'apôtre Paul un temps ou plus longtemps ou tout le temps, il y a différents types de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est où suis-je moi ? Dans quelle catégorie est-ce qu'il faut me classer ? Aujourd'hui ou bien de manière continue. Alors, ceux qui sont le long du chemin, ceux que le message de l'Évangile n'a pas atteint, et nous en croisons des gens comme ça, malgré, hein, j'entendais les prières de ce pasteur là dans le nord du Bénin, hein, qui disait, ça fait 6 ans, si j'ai bien compris, qu'ils sont en place, depuis 2012, pour l'instant, c'est pas ça ? Non, mais dans l'église, le pasteur dans l'église qui disait qu'ils sont au milieu de gens qui sont très musulmans, il me semble que ça fait 6 ans, me semble-t-il, qu'il prie pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, C'est toujours pas le cas. Peut-être il y en a qui viendront jamais. Hein. Et l'explication que Jésus donne, un peu plus loin, quand les disciples lui demandent d'expliquer cette parabole, hein, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la comprend pas, le malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, dans ces gens-là, je ne vais pas relire toutes les histoires, tous les textes, vous relirez toute l'histoire de l'apôtre Paul et les actes des apôtres et toutes les épîtres. Il y avait, vous savez, les Athéniens, à un moment, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul finit par arriver en Europe, et à Athènes, il fait un discours qui était très bien construit. Un discours vraiment où il exposait de façon très savante l'évangile. Et les gens n'accrochent pas du tout. Et ça ne fonctionne pas. Et parfois, des tentatives d'expliquer l'évangile, ça ne marche pas. Hein, c'est dans Actes chapitre 17. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, bon d'accord, une autre fois. Et voilà, et Paul s'en va. Et puis il y a d'autres personnes. Félix, le gouverneur de Césarée, quand un peu on avance dans la vie de Paul et les difficultés s'amoncellent, et il en a appelé à César, il veut être jugé à Rome. Et alors il y a le gouverneur de Césarée devant qui Paul est accusé, on lui dit, voilà, on t'amène cet homme, une vraie peste. Et dans les Actes au chapitre 24, Félix, qui savait exactement ce qui concernait la voix, il était au courant. Hein, la parole avait quelque part été mise. Voilà, il avait entendu des choses. Il les renvoie à plus tard en disant, voilà, je vous entendrai plus loin, je vous entendrai plus tard. Et puis Félix dit, mais pour le moment, va-t'en. Voilà, il ne voulait pas accepter, il ne voulait pas adhérer. Et puis après Félix. Et encore Festus, le successeur de Félix comme gouverneur, Agrippa et Bérénice qui règnent sur quelque chose comme le plateau du Golan, enfin quelque chose qui est au nord-est de la Palestine. Tous ces gens-là sont comme les graines qui sont le long du chemin. Voilà, ceux qui arrivent et puis ça ne prend pas racine du tout. Et puis il y a ceux dans la parabole qui ont été semés dans les cailloux, qui ne sont pas suffisamment enracinés. Leur foi est trop fragile et les revers de l'existence la font vaciller. Jésus dit comme explication à ses disciples, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine, il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, il y trouve une occasion de chute. Alors parmi ces gens-là, il y a des gens comme Hyménée, Alexandre, Philette, dans les épîtres à Timothée, donc c'est un peu vers la fin de la vie de l'apôtre Paul, cette conscience de la foi et du bon combat, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage, comme Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ne me demandez pas ce que veut dire cette dernière phrase, ça fait partie des choses qui pour moi restent des mystères, mais... Dans la deuxième épître à Timothée, il reparle de ces personnes. Hein, il dit, tu sais que tous m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Voilà, les gens qui ont été en contact, qui ont adhéré un moment, qui sont convertis peut-être, on ne sait pas si on utiliserait ces mots-là, à l'époque ils ne sont pas strictement écrits, mais en tout cas qui à un moment sont partis, et qui sont tombés dans l'erreur, semble-t-il, pour des discussions théologiques où ils se noient. Et puis, d'autres personnes... Alexandre, Onésiphore, on ne sait pas trop. Voilà, des gens comme ça qui ont rencontré l'apôtre Paul, qui ont été des compagnons d'œuvre, qui ont été des gens qui l'ont aidé à construire l'Église, et puis qui n'étaient pas suffisamment enracinés, et quand les difficultés sont arrivées, qui se sont écartés. Ceux qui étaient semés dans les épines, hein, et Jésus nous dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses, étouffent la parole et la rendre infructueuse. Là, j'en ai trouvé qu'un seul que je mettrais dans cette catégorie-là, dans toutes mes lectures, il y en a peut-être d'autres, hein. Je suis preneur de... Si vous trouvez quelque chose pour compléter ma bibliothèque. Mais, alors, je vais vous lire... Quelqu'un qui, dans l'épître au Philémon, à la fin de l'épître, Épaphras, mon compagnon de captivité, te salue, dit-il à Philémon, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Démas faisait partie de ceux qui étaient les compagnons d'œuvre de Paul à ce moment-là. Et puis, dans la deuxième épître à Timothée, qui est vraisemblablement la dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite, qui nous est parvenue en tout cas, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4. « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle. » Voilà. Une vraie vie d'être humain, finalement, cet apôtre Paul. Quelqu'un qui a rencontré des gens, qui a pu en entraîner avec eux, qui a pu être une béquille pour ceux qui étaient fragiles, et puis avec lesquels il y a eu parfois des réactions, et les gens se sont parfois éloignés, parfois n'ont pas compris, parfois n'ont pas voulu saisir l'opportunité. Et puis, n'oublions pas, il y a aussi ceux qui portent du fruit. Et comme dans la parabole du semeur, c'est quand même la majorité. Hein, les grains qui tombent soit dans les pierres, les cailloux, les épines, c'est quand même parce que c'est raté, quoi, ou parce qu'il y a un coup de vent qui a emporté. Le semeur, lui, ce qu'il veut faire, c'est semer dans la bonne terre. Parce que l'objectif, c'est bien que toute cette parole qui est répandue à la Pentecôte et après dans le champ missionnaire, qu'il soit en France ou au Bénin ou ailleurs, ce soit des grains qui puissent porter du fruit. Alors, quelques personnages qui illustrent et qui ont porté du fruit avec l'apôtre Paul. Onésiphore, alors effectivement, on hésite un peu sur la manière dont il a terminé, mais en tout cas, il est dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. Il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé quelqu'un qui avait fait l'effort, qui s'était engagé auprès de l'apôtre Paul. On ne sait pas exactement la vie d'Onésiphore, on ne les connaît pas, ces gens-là. Traverse notre lecture, on a un verset, deux versets, et puis à partir de ça, je mets un peu en œuvre mon imagination et la vôtre pour mettre un peu d'histoire autour de tout ça. Mais je crois qu'Onésiphore est quelqu'un qui illustre ce texte où, vous savez, dans une des dernières paraboles de l'évangile de Matthieu, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Onésiphore est venu visiter en prison l'apôtre Paul et le réconforter. Voilà des gens qui portent du fruit. C'est pas la traduction en, je sais plus la langue là, mais c'est du fruit qui traduit en acte ce qui habite leur cœur. Barnabas, je ne vais peut-être pas reparler de Barnabas, fils d'exhortation, quelqu'un qui met en pratique les choses, quelqu'un qui est un exemple, un modèle pour les autres, qui a su entraîner son cousin Marc, le fruit de la mise en pratique. Et là, je voudrais lire dans l'épître de Jacques, reprenant une idée que Jésus lui-même avait utilisée. Pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Timothée, quelqu'un qui a éminemment porté du fruit, qui était un peu l'enfant spirituel de Paul, son successeur, qui le second de Paul dans toute sa vie missionnaire. Plusieurs fois, Paul l'envoie en mission à tel ou tel endroit avec une délégation de sa part pour porter des nouvelles, des biens, pour faire le lien entre les églises. Il est utilisé comme ambassadeur plénipotentiaire, si j'ose dire, de toutes les églises que Paul avait créées. Il est appelé son compagnon, son frère. Et Paul lui confie vraiment la tâche, c'est dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 2, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, etc., etc., qui puissent eux-mêmes, voilà, la mission, hein, la Pentecôte qui continue, parce qu'on confie à quelqu'un qui va confier à quelqu'un qui va continuer comme ça. Voilà le sens de l'engagement chrétien, voilà le sens de la bonne nouvelle, de porter du fruit avec le Seigneur. Et puis des gens que j'aime bien, Aquila, c'est Priscilla. J'aime bien parce que c'était, voilà, eux, ils sont restés au boulot toute leur vie, ils ont travaillé tout le temps, alors bon, je me sens un peu proche, enfin, d'Aquila, c'est, voilà, c'est, je vous présente Priscilla, c'est ça, avec Huguette. Mais ce sont des gens qui étaient, voilà, ils étaient fabricants de tentes, ils avaient un métier, c'était Trigano ou je sais plus quoi, là, c'est, hein, les marchands, le vieux campeur, là, ils font de la pub, là, voilà. C'était ça, ils fabriquaient des tentes, c'était leur métier. Et ils ont continué à le faire, semble-t-il, toute leur vie, ou en tout cas une grande partie de leur vie, hein, puisqu'on les voit régulièrement. Quand ils accueillent Paul, ils l'accueillent dans leur maison, ils lui permettent de travailler dans l'atelier, comme ça ils pouvaient gagner un peu de sous et ne pas être entièrement à la charge de l'Église. Ils ont vraiment été des gens qui ont, voilà, ils ont servi le Seigneur d'une certaine manière, Ils n'étaient peut-être pas des grands prédicateurs, mais ils étaient capables de reprendre. Vous savez, à un moment dans les Actes, au chapitre 18, il y a un certain Apollos qui vient et qui prêche un évangile un peu réducteur. Et donc, hop, Aquilas et Priscille les prennent à part et puis lui explique parfaitement tout ce qu'il fallait savoir. Hein, vous lirez dans les Actes, au chapitre 18. Et puis, on les retrouve à Rome. Ils étaient d'abord à Éphèse. Ils vont à Rome. Alors, est-ce qu'ils ont suivi Paul ou est-ce qu'ils ont simplement suivi les migrations économiques, parce que on ne les a pas inventées aujourd'hui, hein, ça existait déjà à l'époque. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, dit qu'ils ont pris des risques. Hein, ils ont, dans l'Épître, la fin de l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 3 à 4, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, c'est encore toutes les églises des païens. Ils sont engagés, ils sont restés à leur travail, ils sont restés ancrés dans la société de l'époque. Ils ont permis par leur libéralité à Paul de travailler, mais surtout ils sont restés fidèles et ils ont porté du fruit. Puis après ils sont repartis à Éphèse, où Timothée est chargé de les saluer. Une vie d'engagement dans la société au service de l'annonce de l'évangile, serviteur de l'église locale comme de l'église universelle, tout en restant des personnes, des gens qui étaient ancrés dans la société. Ce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, dans la société, nous avons un métier, une famille, une maison, on paye des impôts, enfin, etc. etc. On est dans le monde, que ça ne nous pose pas de problème. Certains vont effectivement au Bénin, bon, et c'est très bien, il en faut, et certains y restent, hein, les deux Neuchâtel qu'on a bien connus ici, ils y sont depuis quelques années maintenant, et puis d'autres vont rester dans leur vie ordinaire, si j'ose dire. Néanmoins, ils sont appelés à porter du fruit. C'est les fruits de l'action fidèle d'un serviteur qui agit pour le Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les apôtres demandent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur leur dit « Mais si vous aviez la foi, vous savez, comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne de se déplacer, à cet arbre de se jeter dans la mer, suivant la version. Et puis, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure, lui dira « Viens, viens, mets-toi à table ». Il va plutôt lui dire « Prépare-moi d'abord le repas, fais ton travail et puis après tu iras te reposer ». Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire ». Je pense qu'Aquilas et Priscilla, ils avaient un peu cette pensée sans doute, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, au jour le jour, quand ça se présentait, et ils font partie de ceux pour moi qui portent du fruit. Alors, est-ce que c'est un grain 100, un grain 60, un grain 30 ? J'en sais rien, il ne nous appartient pas de cataloguer et de hiérarchiser. Mais voilà un petit peu quelques images. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, simplement au travers de cette lecture. Et je vous recommande, hein, si vous trouvez ce livre, sinon je veux bien vous le vendre à prix d'or, c'est collector. Mais non, j'espère qu'on peut le trouver encore. C'est vraiment rafraîchissant parce que ça nous oblige à changer de regard. On n'est pas dans des ouvrages de théologie qu'il faut appréhender avec, je veux dire, sérieux. On lit quand même avec sérieux, ça n'empêche pas, mais on est transporté dans une histoire qui, par beaucoup de côtés, ressemble à la nôtre. Et finalement, on nous aide à nous dire, mais oui, ma vie chrétienne, elle est faite comme elle est faite, de ce que le Seigneur m'a donné. Et là où je suis, comme je suis, avec mes qualités, hélas, mes défauts, le Seigneur me prend, il m'accompagne, et il souhaite surtout que nous puissions porter du fruit. Voilà pour quelques paroles d'exhortation. Je pense qu'il peut m'appeler Barnabas. Là, juste là, entre 11h et 11h30, oui, mais après. Pour conclure, hein, en premier lieu, relisez les épîtres de Paul dans toutes les versions que vous voulez. Hein, je ne suis pas accro là-dessus, je n'ai pas de royalties sur la version de Thune. Mais relisez ça parce qu'on y apprend vraiment ce que c'est que la vie chrétienne. Et on peut, voilà, chacun peut transposer à son existence. Ce n'est pas quelque chose qui est hors du monde, hors sol. C'est ancré en nous, ça doit être ancré dans notre vie de tous les jours. Et puis on a vu que chacun est appelé à vivre une vie qui est différente de celle de son voisin. Ce n'est pas la même. Le Seigneur appelle, le Seigneur équipe, il donne les forces, les moyens et les outils pour faire le chemin. Et puis, surtout peut-être, restons modestes, parce qu'on est peut-être parfois ces graines qui portent du fruit parce qu'elles sont dans la bonne terre. Il y a peut-être d'autres moments de notre vie où on est plutôt dans les épines, plutôt dans les cailloux, plutôt pas trop bien placé. Ça arrive à tout le monde. Et donc, sachons aussi être surtout dépendants et rester fidèlement accrochés à la parole de Dieu. Une information que Dominique, nous a envoyée justement cette semaine, alors que ma prédication était déjà faite, c'est qu'il y a bientôt la projection d'un film, justement, Paul, apôtre de Christ. Ça tombe bien, parce qu'on a parlé de Paul, vous irez vérifier. Donc il y a une projection, une séance spéciale au cinéma Kinépolis à Nancy, le lundi 11 juin, donc dans 10 jours, c'est ça, quelque chose comme ça, à 20h. Donc un film grand public qui raconte la vie de l'apôtre Paul, apôtre du Christ. Hein ? Il est dur, la vie de l'apôtre Paul n'a pas été que facile. Hein ? Mais en tout cas, peut-être retrouverez-vous quelques-uns des éléments que je vous ai dit. Et je termine avec ces trois versets dans le psaume 119, qui est un psaume d'engagement du psalmiste, justement à suivre le Seigneur. Je choisis la voie de la fidélité. Je me conforme à tes ordonnances. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Amen. Je propose de prier ensemble. Seigneur, ta parole est vivante, comme toi-même tu es vivant, tu es présent au milieu de nous, et tu veux nous montrer ce que tu as en réserve et en préparation pour chacun d'entre nous. Que nous puissions regarder à toi et, comme les paroles de ce psaume, te rester fidèles et continuer à lire fidèlement ta parole jusqu'à la fin. Amen.